Notre projet de télévision populaire remonte aux années 80, à l'époque où le fantôme de la Révolution rôdait en Amérique centrale. La population nicaraguayenne menait sa propre révolution. Un exemple d'autant plus dangereux qu'il s'agissait d'une révolution démocratique. Avec ses paradoxes. D'un côté, une réforme agraire généreuse, une politique de santé et d'alphabétisation massive, et de l'autre, une télévision qui diffusait encore des images anciennes, telenovelas et journaux télévisés non participatifs. Comme si la télévision ne pouvait être encore totalement transférée au peuple. Comme si, d'une certaine manière, le colonialisme survivait avec sa division entre le haut et le bas. Cependant, les géants du Nicaragua étaient bien vivants. Au retour en Europe, une question nouvelle surgissait. Quel rapport entre ces deux géants ? Géants du Nicaragua, géants de Picardie, et qu'avaient-ils à se dire ? Culture populaire. Lutte d'une humanité solidaire, horizontale, joyeuse, régénératrice, contre un être égoïste, figé, individualiste.
Sono il grande mangiatore. Mangio tutto.
C'est contre cette culture que, dès le Moyen Âge, la bourgeoisie a fait de la ville sa propriété privée, interdisant les carnavals, expulsant les secteurs populaires. C'est pourquoi la télévision communautaire est toujours à réinventer. Car dans un tel miroir, les citoyens se voient nombreux, puissants et créateurs de mouvements. Au fond, la télévision populaire avait toujours existé, et ses géants la préfiguraient. D'où une première idée qui fit peut-être défaut à la révolution nicaraguayenne. Une télévision comme faite de tous, faite du corps libéré, faite de la raison libre, faite du pouvoir de transformer, faite du peuple. Mais pendant que nous rêvions, les industriels prenaient des décisions. On déclencha la guerre pour le pétrole. Le Pentagone avait tiré la leçon du Vietnam. Il ne fallait à aucun prix voir les victimes des bombardements. Préparés psychologiquement, les Européens de tous bords applaudirent la guerre. Ce fut le début de la résistance de vidéastes comme ceux de Paper Tiger aux États-Unis qui fabriquèrent leur propre chaîne pour se moquer des journaux télévisés de CNN. Au fond, nous n'avions que la télévision que nous méritions et sa toute-puissance ne provenait que de notre manque d'organisation. Quelques années plus tard, retour vers le Venezuela fraternel, ce pays où depuis si longtemps les statues avaient détrôné les géants, comme si la majorité pauvre du Venezuela avait oublié que ce ne sont pas les dieux qui créent les hommes, mais les hommes qui créent les dieux.
Rappelle-toi le programme sur les ouvrières intoxiquées de l'hôpital de La Guayra. Rappelle-toi la composition du plateau. Les responsables politiques occupent les trois quarts de l'espace. Au-dessus de leurs crânes planent tels des auréoles des écrans de télé et de chaque côté, leurs gardes vêtus de noir. À côté, sur le bord de l'image, le groupe des ouvrières coupé au couteau avant qu'on lui coupe la parole. Et s'il insiste, il faut lui reprendre aussitôt le micro. Le peuple idéal est un peuple muet, qui écoute et qui se tait. Donner la parole aux gens, ce serait perdre l'argent de la publicité. L'image et le temps doivent rester disponibles pour les choses. C'est pourquoi les journalistes se comportent avec le peuple comme des femmes de chirurgiens avec leurs bonnes. Mais la télévision ne désespère pas de nous convaincre qu'elle dit toute la vérité, rien que la vérité. Le journal parlé nous informe. On a enlevé tel entrepreneur, on a volé telle banque. La famille de l'entrepreneur parle. Le directeur de la banque parle, comme si l'argent et les entrepreneurs étaient quelque chose d'important.
Quant à la présentatrice, en bonne professionnelle de l'info, elle se fait la voix de l'opinion publique. Cette chose abstraite que nul n'a jamais vue, mais qui appuie toujours les mesures conservatrices.
Attention, on ne critique pas les journalistes. Ils sont la voix de l'opinion publique. Leur diplôme le prouve. Professionnels du chaos qui opposent les secteurs populaires entre eux, qui préparent à la répression et permet d'oublier les vrais problèmes. Professionnels de l'image du peuple. Ce peuple qui apparaît toujours de loin, tendant la main pour l'aumône, peuple féroce ou misérable, qui appelle la charité ou la répression. Et pour qu'il ne puisse se ressentir comme une force de changement, il convient de le diviser, de briser sa solidarité naturelle, en faisant de lui l'éternel mendiant, qui attend la réponse des visages qui apparaissent en premier plan, de ces visages dont on entend la voix généreuse promettre l'aide. Oui, se souvient la télévision, c'est vrai, la pauvreté existe, nous ne la cachons pas. Au contraire, nous te donnons une chance extraordinaire qui t'attend demain, après-demain.
De negocios de tu dinero en este día. Oigan bien lo que le voy a decir. Las personas que manejen, mucho cuidado en los semáforos en rojo, las personas de este signo, en rojo.
Mais puisqu'il faut aussi protéger les banques, il faut encore et toujours préparer la répression, la suggérer dans les têtes. Les vendeurs de l'économie informelle deviennent des microbes, des menaces.
C'est toujours le même scénario, bien où il est depuis le Chili d'Allende. Premier temps, la presse fabrique une ambiance de chaos et désigne les microbes. Deuxième temps, la soi-disant opinion publique écrit au journal ou téléphone en direct pour réclamer de l'ordre. Troisième temps, le pouvoir entend la requête et réprime.
Comment cacher les causes de l'exploitation? C'est simple, en la réduisant à ses effets, en la réduisant à des causes naturelles. La pluie, la boue, les fleuves en colère balaient les maisons de ceux qui vivent le long des cloaques et balaient le pourquoi de leur vie là, à cet endroit. C'est l'image humanitaire. En donnant vie aux marchandises, on n'a pas besoin de montrer ceux qui les produisent. On peut même nier leur existence. La marchandise dotée de vie naît directement de la pensée du chef d'entreprise. Champ, marchandise. Contre-champ, l'entrepreneur. Marchandise, entrepreneur. En plan de plus en plus proche. C'est ainsi que la classe dominante informe les classes dominées. Elle cache si bien les contradictions de son système qu'elle finit par nous faire croire que notre devoir commun est de le perfectionner jusqu'à son harmonie parfaite. Les gens qui restent sont abstraits, inoffensifs. Ils ne mangent que de l'information et ne se reproduisent que par reflet, reflet du moi, du corps, du neuf, de la jeunesse. Et l'image du monde? Un morceau d'avion dans la mer, un volcan qui parle japonais, un Bill Clinton en Colombie, un Bill Clinton en Afrique, un Bill Clinton à Hollywood. Car juste après le journal télévisé, Bill Clinton continue à travailler. Et dans la cour de l'école primaire, quelles sont les questions du professeur ?
Ha construido en Estados Unidos.
Combien de gens pouvaient entrer dans le premier tramway inventé aux États-Unis? Toutes les questions te prouvent que tu n'es pas encore un parfait citoyen des États-Unis, qu'il te faut encore vivre l'histoire des autres, tourner le dos à la tienne, te voir avec les yeux qui te méprisent, te laisser noyer par le rêve du premier de la classe.
'Quel avion nous ramènera vers nous-mêmes? À quoi ressemblera notre visage? Et quand le verrons-nous?
Contre la déification des marchandises, voir ce qui la produisent. Contre l'invisibilité des travailleurs, entrer dans les lieux de travail, partout où la caméra reste interdite. Contre le découpage du réel en thèmes de documentaire et en grilles de programme, se préoccuper d'abord de l'unité en mouvement du réel et de ce qu'il nous dit à chaque instant.
Par exemple, sous la photo souvenir de la petite championne de karaté, voir la couturière qui a confectionné son kimono et voir l'ouvrier qui a fabriqué son trophée.
Explorer les autres dimensions d'un conflit, d'une lutte. Contre la division des secteurs populaires, renforcer leurs liens de solidarité en montrant leurs intérêts communs. Contre l'information ponctuelle et sans lendemain, développer le droit de suite.
Una democracia que uno no la ve, porque siempre nos han dicho que el venezolano tiene derecho.
Contre l'ambiance répressive, refaire le lien entre nous, vaincre notre peur à sortir de chez nous, réoccuper la rue.
¿Y de quién fue la idea de hacer esta cancha?
Au lieu de couper la parole, écouter les solutions qu'apportent les gens, les réunir et les comparer. Écouter la mémoire de la lutte populaire. Au lieu de noyer les gens dans le silence, déchirer ce silence. Donner à entendre les mots interdits de télévision, les mots grossiers, les mots refoulés, les mots réprimés. Contre le silence du studio et la propreté des discours, le travail c'est de faire revenir le son vers les images, le son vécu par la majorité, le son qui relie, le son d'ensemble. Au lieu d'exporter des misses et du pétrole, exporter des idées, des sentiments. Au lieu de faire des images de la misère, montrer des images de gens luttant contre la misère. Arracher la culture populaire au musée du folklore. Entendre ces messages de changement, ces forces de libération. Contre l'ordre fait nature. Chercher les questions qui font trembler sa mise en scène.
Que la cultura es para los ricos. Porque si la cultura fuese para nosotros, carajo, el pueblo venezolano no comprara espagueti, ni arroz, ni grano todos los fines de semana. También comprara un libro, también comprase un cuadro, una escultura, porque de hambre nada más no vive el pobre o el hombre. También necesitamos cultura, educación.
Voir comment s'écoule le temps de la vie. Loin de la course contre le temps, retrouver le temps comme matière première des images.
10, 4, 42, 43.
Contre l'américanisation, décoloniser les images. Par exemple, réapprendre à suggérer l'amour au lieu de le montrer.
Contre la violence faite à la femme, rendre la femme visible.
Dame tu poder divino para curar este enfermo que tiene una culebrilla, un calderilla. Con tus arrefrescios baratos se ha salido este veneno. Jesús Ponzoña salió aquí. Por el tiempo que nuestro Señor Jesucristo se mantuvo aquí. Jesús Ponzoña salió de este cuerpo. Por el tiempo que nuestro
Señor. Une méthode, filmer pas à pas, dans la rue. Là où se déroule la vie, là où peut se nouer la participation, de rue en rue, de quartier en quartier, les liens entre les êtres et les choses, ce sont les gens qui les désignent. La matière première, c'est la discussion avec les gens, l'instinct de solidarité. Refuser de centrer les images, c'est penser qu'un regard renvoie toujours à un autre, que rien n'est fixé d'avance. Faire ensemble une télévision, c'est un mouvement d'organisation. Voir, c'est s'organiser, se mobiliser, dialoguer. Lentement, s'approcher des gens, rompre la distance, c'est rompre la peur de s'unir, la peur de la liberté. Ce n'est plus le documentaire comme marchandise thématique. C'est le point de vue né de la discussion et des expériences de tous. Ainsi, comme le documentaire a joué un rôle d'innovation par rapport au cinéma, la télévision libre peut réveiller le langage à son tour. Au fond, la télévision libre ne devrait pas seulement être un renversement systématique de la télévision dominante, mais la découverte de résistances qui viennent de partout, pour les réunir et les renforcer. Telle serait la tâche par excellence de la télévision libre. S'appuyer sur les éléments les plus progressistes de la culture populaire pour les multiplier, leur donner une résonance majeure et enraciner lentement de nouvelles formes de vie. La télévision est un rêve éveillé, un rêve en mouvement qui en entraîne d'autres, un rêve qui emportait chacun au-delà de soi, vers un soi qui s'appelle Kumbe, terre libre.